Il y a beaucoup de lumière ce matin, j'ai l'impression. On va voir si vous voyez. Hop, j'attends que mon ordinateur, hop là. Vous voyez? Ouais, pas trop. Bof. Si. Normalement, cette image doit vous surprendre. Je vous donne un indice, le haut et le bas sont pas au bon endroit. J'espère que vous aviez compris. Si le confinement a eu une vertu, c'est celle de nous recentrer sur l'essentiel, de nous rappeler l'essentiel. On a redécouvert que les relations humaines, c'est quand même vraiment important. Que c'est vraiment, vraiment bien. On a même redécouvert que vivre à la campagne, c'est vraiment, vraiment bien. Enfin, nous, on le savait déjà, hein, que les citadins avaient une vie pourrie, mais en fait, eux, ils s'étaient fait croire, année après année, qu'en fait, ils vivaient une vie de rêve. Et puis, il a suffi d'un confinement pour qu'ils comprennent que leur vie était pourrie à la ville. On s'est aussi aperçu que s'arrêter, prendre du temps pour soi, c'est vraiment, vraiment bien. Et à contrario, on s'est aperçu que consommer à outrance, vivre une vie de fou, c'est pas forcément nécessaire. On a aussi découvert que les professions les plus essentielles, celles qui nécessitaient de sortir travailler pendant le confinement tellement elles étaient essentielles, ces professions n'étaient ni les mieux payées, ni les mieux reconnues. C'est intéressant de voir que, comme en quelques mois, des valeurs individualistes, mercantiles, voire superficielles, ont peu à peu été remises en question. Elles ont été remises en question, mais ne vous inquiétez pas, elles sont revenues aussi vite qu'elles étaient parties avec la fin du confinement. L'histoire que nous allons méditer ce matin parle, elle aussi, de renversement des valeurs. De bouleversement. D'habitude, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants. Mais en fait, on la raconte beaucoup moins aux adultes. J'ai demandé à Mélodie de me raconter l'histoire et elle avait oublié une partie de l'histoire. J'ai demandé à Moïra de me raconter l'histoire. Elle connaissait la totalité de l'histoire. Bon, il y en a une qui l'avait entendue plus récemment que l'autre. Mais en tout cas, cette histoire, on la raconte beaucoup moins aux adultes. C'est l'histoire de la bénédiction du pire ennemi d'Israël et l'histoire de la malédiction du plus proche collaborateur du plus grand prophète d'Israël. Et donc ça, normalement, on connaît, mais on ne s'attarde pas assez sur le pourquoi de tout ça. Et je vous propose de vous intéresser au pourquoi de tout ça en lisant donc dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 5, que je vais saucissonner comme à mon habitude. Donc voilà, 2 Rois 5, et on va commencer par les versets 1 à 8. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime, et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Jusqu'ici, cette première partie du récit. Donc, vous connaissez probablement l'histoire, Naaman est lépreux. Et dès le début de l'histoire, on voit que les grands sont impuissants pour trouver le moyen de guérir son mal. Naaman ne sait pas quoi faire, lui le grand. Le roi de Syrie, lui le grand, ne sait pas quoi faire non plus. Le roi d'Israël, de l'autre côté de la frontière, lui non plus, ne sait pas quoi faire. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Et donc voilà, on voit Naaman, ceux qui sont en haut, ceux qui sont haut placés, ne savent pas quoi faire. Ceux qui savent quoi faire sont en bas. Qui est-ce qui apporte la solution ? C'est une petite fille. Une petite fille qui n'a bien sûr aucun pouvoir. Elle est esclave, elle est d'origine israélite, elle a été enlevée par les Syriens. C'est une petite esclave qui va donner la solution. Et donc on voit le contraste entre le roi d'Israël qui ne comprend même pas ce qu'on lui demande. Il reçoit la lettre et il déchire ses vêtements. Donc il ne sait vraiment pas pourquoi est-ce qu'on lui demande de guérir cet ennemi lépreux. Et c'est une petite fille esclave d'Israël qui connaît la solution, ainsi que Élisée. Élisée qui dit au roi, mais en fait, pourquoi t'as déchiré tes vêtements ? Envoie-le-moi et tu vas voir. C'est un peu comme si le roi Yoram ne connaissait pas l'existence du prophète Élisée. Donc ceux qui sont en bas ont la solution. La suite du récit. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère, et s'en alla, en disant, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour y être purifié ? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Là encore, c'est la simplicité qui triomphe dans cette deuxième partie. C'est le non-bling-bling qui triomphe dans cette partie. Naaman ne connaissait pas la solution, il a maintenant la solution via l'esclave, il vient en Israël et il s'attend à avoir, à rencontrer un prophète charismatique qui, avec des rites impressionnants, accomplirait un miracle époustouflant. Voilà, il s'attend au grand jeu, Naaman. Il s'attend à de la magie, quoi. Quelque chose de bien. Pourtant, il ne trouve qu'un sous-fifre qui lui dit de se laver plusieurs fois dans un fleuve quelconque. Et ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver du tout. Et le général, donc, est furieux. Il n'a pas fait tout ce voyage pour vivre un truc banal, inférieur à ce qui existe dans sa Syrie natale. Et là encore, on retrouve nos flèches où est la solution? La solution est-elle en haut, avec donc les deux fleuves de Syrie que Naaman a l'air de tenir en haute estime, l'Abana et le Parpar, voilà aussi l'exigence d'un geste absolument merveilleux de la part d'Élisée qui vient en personne. La solution ne vient pas de là. C'est une solution banale, se laver 7 fois dans le Jourdain et aussi écouter une fois de plus ses serviteurs. Ce sont les serviteurs qui sauvent la vie de Naaman et c'est la deuxième fois que ça lui arrive. C'était la servante de sa femme en Syrie, une petite esclave. Maintenant, c'est ses serviteurs qui le persuadent de ne pas faire demi-tour et de quand même obéir à l'injonction du sous-fifre du prophète. Ce sont des petits et la simplicité qui sauvent la mise du puissant Naaman. La suite, au verset 14. « Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent t'emporter. » Car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Seulement, que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante, quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimmon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. Élisée lui dit, va en paix, et Naaman le quitta. Naaman a bien fait d'écouter ses serviteurs, puisque les 7 bains l'ont guéri, l'ont totalement purifié de sa lèpre. Il décide donc de mettre sa foi exclusivement dans le Seigneur, et il le prouve en emportant de la terre d'Israël. Et parce qu'à l'époque, on pense qu'un dieu est lié à un territoire. Donc il y a un dieu par territoire, il y avait plein de petits dieux par territoire. Et donc on peut penser que Naaman emporte de la terre d'Israël parce qu'il pense que la terre est liée à ce dieu-là. Donc il veut adorer sur cette terre-là parce que c'est la terre qui est liée à ce dieu-là. Mais en tout cas, on assiste à la conversion, ni plus ni moins, la conversion d'un des pires ennemis d'Israël. Et pourtant, il était venu pour couvrir son guérisseur d'or. Et le problème, c'est que Monsieur Élisée refuse cet or. Et là encore, voilà, on a encore ces deux flèches entre ce qui est important et ce qui est plus simple. Il était venu avec, alors j'ai pris une version plus ancienne avec les talents, hein, mais c'est pareil que les 350 kilos d'argent et tout ça et tout ça. Il était venu avec 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Élisée refuse. Mais au final, puisque Élisée refuse, il repart avec ses 10 talents, ses 6000 pièces d'or, ses 10 vêtements de fête, mais il repart surtout avec 2 mulets de terre d'Israël. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que les 2 mulets de terre d'Israël ont à peu près la même valeur maintenant que les 10 talents, 6000 pièces d'or et les 10 vêtements de fête. Parce qu'il s'est converti, eh bien, ce qui est important pour Naaman, ça a changé. Ça a changé. Maintenant, de la terre d'Israël est aussi importante que toutes les richesses qu'il avait emporté. Il a adopté les valeurs d'Élisée. Mais, si l'histoire s'arrêtait là, ce serait vraiment sympa, mais il y a un mais, et il y a la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, la fin de l'histoire, c'est que lorsque Naaman eut parcouru une certaine distance, c'est la fin du verset 19, Guérasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit « Mon maître a voulu ménager ce Syrien, Naaman, et il l'a laissé partir sans accepter aucun des cadeaux qu'il lui avait apportés. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le rattraper et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui. » Guérasi se mit donc à courir après Naaman. Lorsque celui-ci le vit accourir, il sauta de son char et se précipita vers lui. « Est-ce que tout va bien ?» lui demanda-t-il. « Oui, tout va bien, » répondit Guérasi. « Mon maître m'envoie te dire, à l'instant, deux jeunes disciples des prophètes viennent d'arriver chez moi, de la région montagneuse d'Éphraïm. Peux-tu me donner pour eux 35 kilos d'argent, je te prie, et deux vêtements de rechange ?» C'est-à-dire un talent, hein, si on fait la conversion. Naaman lui dit, « Fais-moi le plaisir d'accepter 70 kilos d'argent. » Il insista auprès de lui pour qu'il accepte et mit lui-même les 70 kilos d'argent dans deux sacs qu'il lui donna. Il lui remit aussi deux vêtements d'apparat que deux de ses serviteurs portèrent devant Guérasi. Quand Guérasi fut arrivé à la colline située près de l'entrée de la ville, il prit les objets de leurs mains, les déposa chez lui et renvoya les deux serviteurs qui s'en allèrent. Puis il alla lui-même se présenter à son maître Élisée. Son maître, Élisée, lui demanda « D'où viens-tu, Guérasi ?» Il répondit « Ton serviteur n'est allé nulle part. » Mais Élisée lui dit « Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre ? Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent et d'acquérir des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes ? Puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. » Alors, Guérasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Jusqu'ici, notre passage en entier. Si Naaman semble avoir adopté la vision d'Élisée, Guérasi fait exactement le contraire. Est-il devenu bassement cupide ? Ou bien estime-t-il que les dons du Syrien auraient permis d'améliorer le quotidien ? Un quotidien qui est parfois fait de famine, de choses un petit peu spéciales, parce que les Syriens rendaient la vie vraiment dure aux Israélites. C'est une bonne question, mais le fait finalement que Guérasi ait modestement demandé un seul talent au lieu des 10 proposés au départ, et deux vêtements de fête au lieu des 10 proposés au départ, semble nous orienter sur la seconde possibilité. Probablement que Guérasi voulait juste améliorer le quotidien. Pourtant, son maître, et donc c'est là la flèche qui va vers le haut, son maître, Élisée, l'accuse de quasiment vouloir faire fortune. Il lui dit, voilà, t'as voulu argent, vêtements, olivier, vigne, serviteur, servante. Enfin, en gros, voilà, c'est bon, toi, t'es sûr que c'est le moment de vouloir faire fortune. Alors qu'en fait, a priori, Guérasi est plutôt modeste dans ses demandes. Pourquoi ? Parce que vouloir s'enrichir, même modestement, c'est déplacer pour des serviteurs de Dieu. C'est déplacer quand on a pour mission de faire revenir à Dieu un peuple corrompu. Élisée appuie sur la différence et donc sur la rupture inévitable entre lui et son serviteur. Son serviteur accepte de l'argent, alors que ce que Élisée a dit à Naaman, par la vie du Seigneur, au service duquel je me tiens, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Alors que Guérasi a dit, lui, par la vie du Seigneur, je vais aller retrouver ce Syrien et je vais lui demander de l'argent. Donc par la vie du Seigneur, on ne fait pas les mêmes choses là d'un seul coup. Donc il y a une rupture qui est inévitable, une rupture de valeur entre Élisée et son serviteur. Ils ne regardent plus dans la même direction. Et du coup, puisqu'il y a une rupture inévitable, on s'aperçoit qu'il y a un transfert de malédiction. Il y a deux trajectoires inverses qui s'opèrent. Guérasi est guéri de sa lèpre, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a adopté des valeurs d'humilité et de simplicité. Guérasi, d'un seul coup, il regarde vers le bas. Naaman. Naaman, il a adopté... C'était pour voir si vous suiviez. Naaman a adopté des valeurs d'humilité. Il est vers le bas et donc il est guéri de sa lèpre. Alors que Guérasi, lui, il a voulu voir plus haut. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait. Et donc, lui, récupère finalement la lèpre de Naaman. L'humilité et la simplicité semblent être des valeurs qui portent bonheur dans ce récit. Et on voit que l'orgueil et l'ambition mal placée, au contraire, semblent être des valeurs qui portent malheur. Et on voit en plus, avec la confrontation entre Guérasi et son maître, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça nous rappelle un autre récit quand Élisée lui dit « Mais d'où viens-tu ?» Et Guérasi dit « Non, nulle part, moi j'étais nulle part. » Et puis Élisée dit « Tu croyais pas que je te voyais ? Ça vous rappelle pas un autre épisode ?» Ouais, ça vous rappelle un autre épisode, ça tombe bien. Donc ça rappelle Adam, hein, voilà. Adam, lui qui, pouvait manger de tous les fruits du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui a justement lui aussi été attiré par un serpent qui lui a dit mais vous pouvez accomplir de plus grandes choses. Vous pouvez être comme des dieux, comme des dieux. Et là encore, Dieu demande à Adam, où étais-tu ? Et puis il dit, non, j'étais nulle part, tout va bien. Enfin, je me suis caché, mais tout va bien. Et ça s'est plutôt mal passé à ce niveau-là. Et on peut penser que l'auteur du livre des rois a voulu montrer que Guérasi était dans cette lignée, dans la même lignée qu'Adam. Sa lèpre étant finalement le signe visible de son péché intérieur. Mais dans la lignée d'Élisée, on voit aussi que cette question, cette tension entre l'orgueil mal placé, les yeux tournés vers des choses clinquantes, vers le bling-bling, et vers les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus humbles, c'est quelque chose qui a été développé par le nouvel Adam, par le nouvel Élisée, c'est-à-dire par Jésus, qui lui aussi a fait la promotion de l'humilité et combattu l'ambition mal placée. Et on voit que d'après Jésus, eh bien, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, que celui qui veut gagner sa vie la perdra, alors que celui qui perdra sa vie à cause de lui la trouvera, que ce sont les bien portants qui n'ont pas du tout besoin de malades, donc qui n'ont pas du tout besoin de Jésus, alors que ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin, qui ont besoin de Jésus, et aussi qu'il est très difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu, alors que pour suivre Jésus, il faut vendre tout ce qu'on a et le suivre. Voilà comment Jésus développe aussi cette idée que, en fait, les valeurs de notre monde ne sont pas les valeurs de son royaume. Les valeurs de son royaume sont à contre-courant, sont inconfortables. La fragilité, la vulnérabilité, qui sont les conséquences d'une dépendance à Dieu, sont mises en valeur, alors que l'orgueil et le matérialisme sont taxés de folie. Le royaume de Dieu est complètement à contre-courant des valeurs du royaume ici-bas, du royaume du prince de ce monde, du diable, du prince du monde déchu. Et donc on voit que voilà, il y a un choix à faire pour les disciples de Jésus, viser le bas et pas viser le haut, viser la dépendance à Dieu. Et on pourrait penser que voilà, une fois que Jésus a instauré ce royaume-là, et ben que tout va bien se passer. Et ben non, pas du tout. Après Jésus, ça continue. Et on voit que très vite, dans la première église, on a un contraste entre deux personnes, plutôt trois personnes, entre Barnabas, qui vend son terrain et qui apporte l'argent et remet le produit de cet argent, de cette vente aux apôtres. Donc lui, il vise le bas, il vend tout. Enfin, il vend son terrain. On peut imaginer qu'il avait d'autres propriétés. Il vend son terrain et il le met au pied des apôtres. Alors que Ananias et Saphira vendent aussi leur terrain. Ils en mettent une partie au pied des apôtres pour se faire un petit peu mousser. Mais en même temps, ils en gardent une partie pour j'imagine, leurs faux frais ou pour s'acheter une bicyclette ou un truc comme ça. Et donc là, on voit qu'il y a un contraste. Et on voit que là encore, il y a quelqu'un qui vise vers le bas et l'autre qui vise vers le haut. Et on sait que Ananias et Saphira, ça leur a pas vraiment réussi ce genre d'attitude. Et on voit que c'est pas fini, puisque dans le reste du Nouveau Testament, eh bien voilà, les apôtres vont connaître aussi d'autres bouleversements comme ceci. Et on voit que voilà, on voit qu'il y a des païens qui acceptent l'Évangile. Alors qu'en fait, on ne s'attendait pas du tout à ce que des païens acceptent l'Évangile, alors que ceux qu'on croyait, qui étaient plutôt les destinataires naturels, les juifs, eux, bah, ont plutôt tendance à le rejeter. Donc on voit qu'en fait, ce qui est en haut, bah, voilà, ça ne marche pas, alors que ce qui est en bas, ça a l'air de marcher, ça continue comme ça. On voit que Paul, le pire ennemi de l'Évangile, un peu comme Naaman, en fait, finit par se convertir, alors qu'en fait, on n'aurait pas cru ça. On voit qu'on a des chrétiens, les Corinthiens, qui sont orgueilleux, qui se servent de leurs dons spirituels pour se faire mousser, pour écraser les autres. Un truc un petit peu bizarre comme ça. Des chrétiens, quoi, qui sont animés par l'esprit, s'en servent pour s'enorgueillir. On voit que les chrétiens, les vrais, au lieu de réussir, eh bien, souffrent. Et ça, c'est conforme à l'enseignement de Jésus. Mais on voit aussi que c'est le dernier truc vers le bas. C'est qu'on voit aussi qu'il y a plein de frères et sœurs qui étaient là, et bien partent parce qu'ils trouvent que l'Évangile n'est pas assez sexy. Et ils se tournent vers des philosophies, des religions, des pratiques beaucoup plus séduisantes. Et Phare nous a lu hein, la lettre de Jean. En fait, Jean traite de ce problème-là. Il rappelle l'Évangile parce qu'en fait, il parle à des personnes qui sont tentées de partir vers d'autres philosophies beaucoup plus sexy. Que l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc on voit en fait qu'il y a encore cette attirance-là qui est permanente, cette tension qui est là d'être attiré vers les choses un peu superficielles. Et la question qui nous est posée dans ce texte, c'est quelles sont les choses qui nous attirent? Quelle attraction? Hop, je reviens après. On est naturellement attiré par ce qui brille. Nous avons tous notre propre définition du progrès et ce passage attire notre attention sur nos motivations, sur nos priorités. Nous pouvons mépriser de petites choses qui, à nos yeux, ne servent à presque rien ou ont très peu d'intérêt alors qu'elles sont essentielles pour Dieu. Et inversement, nous pouvons perdre beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, dans des choses, dans des activités insignifiantes pour le royaume de Dieu. Donc nous pouvons nous gourer un peu de flèches. C'est justement la question que le Nouveau Testament pose fréquemment. Investissons-nous dans ce qui est éternel ou investissons-nous dans le périssable? Et c'est tout le sujet finalement des paraboles que Jésus raconte à la fin de l'évangile de Matthieu, avec des serviteurs qui sont censés attendre leur maître, mais il y a des serviteurs qui font ce que leur maître leur a demandé, et quand le maître revient, ils sont félicités, récompensés, alors que certains autres, eh bien, se sont perdus dans des futilités, ou même en faisant des choses qui sont contraires à ce que leur maître leur avait ordonné, et qui, eux, sont châtiés par leur maître. Investissons-nous dans ce qui est éternel, ou bien dans ce qui est périssable. Et nous devons reconnaître que la réponse à cette question est difficile à connaître pour nous. C'est pourquoi il est très sage de la poser au Seigneur directement. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait intervenir dans nos prières régulières. Est-ce que je fais ta volonté? Est-ce que je suis sur tes voies? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On devrait souvent demander au Seigneur ce qu'il voudrait que nous fassions pour lui. si nous sommes sur ses voies. Notre ambition, nos objectifs doivent être inspirés par lui. Notre action doit être commandée par lui. N'ayons pas une vision trop belle de nous-mêmes, comme l'invité de cette parabole qui conclura ce message. C'est Jésus qui raconte cette parabole dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Il adressa une parabole aux invités, il était à table, aux invités, qu'il remarquait que ceux-ci... Oups, désolé, c'est embêtant. Je reviens. Ah non, ça va pas. Hein. Bref, mes yeux. Voilà. Parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur disait, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller t'installer à la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Soyons attirés par le royaume de Dieu, soyons ambitieux pour le royaume de Dieu et laissons le Seigneur être ambitieux à notre place. Amen.